en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jean-Marie Laine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Alors pendant une petite heure, nous allons pouvoir retracer votre parcours dans cet habit vert qui vous est consacré. Et puis également, tout au long de cette heure, nous allons pouvoir faire place également à votre passion, la musique classique. Donc la musique classique nous accompagnera tout au long de cette heure. Je précise pour nos auditeurs, Jean-Marie Laine, que vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 1985 dans la section chimie. Et puis vous êtes l'un de ces grands noms des prix Nobel de chimie en 1987. Également, alors je dis un peu dans l'ordre qui vient comme ça, vous êtes également professeur au Collège de France, mais cela depuis 1979. Et puis directeur de votre propre laboratoire, le laboratoire de chimie supramoléculaire de Strasbourg. Alors vos recherches qui vous ont valu ce prix Nobel de chimie portent sur les molécules. Je vais peut-être pouvoir dire l'intitulé exact, qui pourrait paraître un peu long. C'est un prix Nobel que vous avez reçu avec deux autres personnes, hein, je tiens à le préciser.
Ça,
hein,
oui. Qui sont, Charles Peterson et Don Cram.
Exactement, avec l'accent. Donc ce prix Nobel est décerné pour vos travaux sur l'élaboration et l'utilisation des molécules pouvant exercer avec une haute sélectivité une interaction spécifique de culture. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire exactement en quoi cela consiste, avec des mots peut-être un peu plus simples.
Oui, bien, on peut le résumer en deux termes, de la reconnaissance moléculaire. Alors ça n'explique pas tout, hein. Mais au moins c'est déjà plus court.
Exactement.
Et ce que ça veut dire, c'est la chose suivante, c'est que quand deux molécules s'associent l'une à l'autre, elles le font avec une certaine spécificité, c'est-à-dire il y a une espèce de préférence qui se fait en faveur d'une plutôt qu'une autre. Et c'est comme si elles se reconnaissaient, et donc le fait de choisir, qu'un appariement repose sur le choix de deux molécules, l'une avec l'autre, ou l'une par l'autre, c'est un phénomène qu'on peut appeler de reconnaissance. Et c'est un phénomène extrêmement important. Tous les systèmes biologiques, toutes les molécules biologiques et les fonctions biologiques reposent sur une étape de reconnaissance qui, en général, précède la fonction qu'elles accomplissent après. Et l'image que l'on peut utiliser, que j'utilise toujours, bien qu'elle soit donne une image trop rigide de la chose, c'est l'image de la clé de la serrure qui a été introduite par Émile Fischer déjà en 1894 et qui dit bien ce que ça représente. C'est la bonne clé qui peut entrer, se fixer, être complémentaire de la serrure et donc ouvrir la porte et puis donc permettre un certain nombre de fonctions. Et cette image de clé-serrure est exactement ce qu'il faut. Bon, évidemment, depuis Fischer, qui avait une image extrêmement géométrique, très mécanique à l'époque, la vue était très mécanique, très géométrique. Depuis, la serrure s'est un peu amollie et la clé s'est amollie, c'est-à-dire qu'il y a un ajustement qui peut se faire entre les deux, mais fondamentalement, sans entrer dans ces complications qui, évidemment, on pouvait se le dire dès le départ, que ça ne va pas être aussi rigide, une molécule n'est pas rigide à ce point. C'est quand même une image qui reste, et donc cette reconnaissance, cette complémentarité entre clé et serrure représente la reconnaissance moléculaire. Et les molécules biologiques, par exemple, un médicament est une molécule synthétique faite en laboratoire, sur mesure, comme une clé, qui doit se fixer sur une serrure biologique pour soit l'inhiber, soit l'amplifier, et donc avoir une action biologique par cette fixation très très spécifique. Il faut que ce soit très sélectif, sinon ça va se répandre partout dans l'organisme, ça va déclencher un grand nombre d'autres actions, et donc il faut que ce soit exactement taillé sur mesure pour la clé en question. Et l'un des grands défis de la recherche pharmaceutique dans ce cas-là est de faire la bonne clé pour la serrure en question.
En plus, c'est bien parce que vous abordez de manière très simple l'utilisation qu'on peut faire de cette connaissance.
Oui, nous nous sommes surtout intéressés à la base. Comment ça marche? Comment cette reconnaissance s'effectue-t-elle au niveau moléculaire? Mais les pharmaciens ne nous ont pas attendus. Hein. C'est qu'ils avaient bien sûr réfléchi là-dessus aussi, les gens qui mettent au point des médicaments. Mais très souvent, et d'ailleurs c'était à l'époque quand ce domaine a commencé, on n'était pas au stade actuel où maintenant, avec toutes les possibilités de détermination de la structure de la molécule biologique, d'analyse de cette structure sur ordinateur, de la conception de la clé pour la serrure en question, ça a beaucoup évolué. Mais à l'époque, dans les années, milieu des années 60, début 70, c'était à ce moment-là que on pouvait développer les bases de ce phénomène. Comment cette reconnaissance moléculaire s'effectue-t-elle?
Alors Jean-Marie-Hélène, merci déjà de nous avoir expliqué de manière beaucoup plus simple ce terme qui pouvait nous paraître un peu compliqué au départ sur ce prix Nobel que oui. vous avez reçu. Nous allons pouvoir maintenant un petit peu revenir en arrière.
Peut-être un petit peu plus oui. spécifique peut-être, puisqu'on parle de ça pour ne pas avoir à revenir là-dessus. Mm-hmm. Le déroulement un peu logique de la chose était que on choisit au départ, si l'on veut comprendre le phénomène, oui. la manifestation la plus simple. Quelle est la manifestation la plus simple d'un phénomène de reconnaissance, d'un phénomène clé-serrure ? C'est de choisir la clé la plus simple. Quel est l'objet géométrique le plus simple dans l'espace à trois dimensions ? C'est une sphère, une boule. Alors, j'avais commencé à l'époque par prendre le problème de la façon suivante. Quelles sont les boules, donc les espèces sphériques en chimie, et comment faire une serrure pour cette clé sphérique ? Pour une clé sphérique, ce n'est pas très utile dans la pratique, mais chimiquement, ça a tout à fait son sens. Il se trouve qu'en plus, dans cette série de clés, qu'on appelle la série des ions alcalins, lithium, sodium, potassium, rubidium, mm-hmm. césium, il y en a deux, le sodium et le potassium, qui m'intéressent spécialement, parce que, d'une part, ils sont biologiquement très importants de façon générale, mais de façon plus spécifique, c'est eux qui portent l'influx nerveux dans les nerfs. Et ça m'intéressait depuis toujours, ça peut-être la suite de mes intérêts pour la philosophie de la connaissance,
et on y reviendra.
Le fonctionnement de l'appareil nerveux. Et sodium-potassium, c'est le signal électrique, ionique, qui porte l'influx nerveux. Et c'est pour ça que dans les membranes nerveuses, il y a des substances, des protéines qui doivent faire la différence entre sodium-potassium, qui sont des petites sphères de diamètre légèrement différent. Alors la question était, bon, puisqu'il y a une belle série de 5 sphères différentes, puisque 2 d'entre elles sont spécialement importantes du point de vue biologique, essayons de faire des serrures avec une cavité sphérique, et c'est ce qui nous a conduit à faire ce qu'on avait appelé les cryptans et les cryptates, cryptes, oui. cavernes, trous, enfin bon, cavités, qui ont des cavités sphériques, et donc comme une clé, hein, vous faites des cavités de plus en plus grandes, de plus en plus petites, et puis vous essayez de voir comment l'un est complémentaire de l'autre.
Alors c'est vrai que quand on parle de chimie, on s'imagine l'industrie pétrochimique par exemple, là en l'occurrence, c'est vrai que vous faites référence au corps humain pour le coup. Quand vous parlez
oui,
de
oui, parce que le corps humain, c'est un ensemble de molécules. Hein,
tout est chimique,
si je
oui.
puis me permettre.
Oui, bien sûr. Mais effectivement, nous, dans notre imaginaire, on, oui. on pense
nous
plutôt...
sommes un tas de molécules. Certes, nous sommes chacun individuellement un agencement très spécifique, très très complexe, mais c'est un tas de molécules.
Nous aurons l'occasion de revenir peut-être un peu plus en détail, puisque quand nous allons repasser un petit peu le cours du temps, nous reparlerons de vos travaux, donc peut-être que nous en reparlerons quand même quelques
d'accord,
temps.
D'accord, oui.
Mais je vous propose de revenir quand même quelques années en arrière pour évoquer peut-être vos origines. Vous êtes né en Alsace, à Rosheim,
oui,
près Rosheim, de Strasbourg,
oui.
en 1939. voilà, il n'y a rien de méchant.
C'est marqué sur ma carte d'identité, par exemple.
ouais. Donc, vous êtes issu d'une famille, vous avez combien, 4 ou 5 frères et sœurs ?
J'ai 3 frères.
3 frères,
quatre, oui.
voilà. Et votre père était boulanger
oui.
et organiste,
oui,
ce qui n'est pas forcément
pianiste,
commun. Pianiste, organiste.
Oui, oui. Il gagnait sa vie quand il était jeune, il me racontait, en accompagnant les films muets et en faisant des soirées de danse et des choses comme ça. Puis il passait ses samedis et surtout la nuit de samedi à dimanche à jouer du piano et il me disait qu'il gagnait de cette façon autant en un week-end, en une fin de semaine, que son père qui était boulanger aussi gagnait dans le mois.
Ah oui, effectivement.
Ah oui, non, c'était quand même une activité intéressante pour lui.
Et alors, vous et vos frères, vous étiez là à chaque fois, quand les week-ends, ils allaient
pouvoir...
Ah
non, ça, c'était... Non, c'était
la...
plus jeune que ça, non.
Non.
Moi, je n'ai jamais entendu
Vous n'avez jamais
ça.
Assisté, vous ne l'avez jamais écouté
Si, à la maison, mais
oui.
pas dans ces circonstances-là, non.
Pourquoi
Mais parce qu'il ne faisait plus, les films n'étaient plus des films muets.
Oui, mais il était organiste, donc il
pouvait Ah oui,
peut-être...
oui, ça, bien sûr, mm-hmm. ben, évidemment, ça, bien sûr, piano, orgue, oui, ça, mm-hmm. bien sûr. Mais pas l'accompagnement de films muets, pas les soirées, je sais pas si des dansantes ou comment on appelle ça, mais enfin disons les soirées dans la petite ville.
Oui. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que ça a joué dans votre parcours, puisque nous allons pouvoir le voir tout au long de cette heure, c'est vrai que la musique vous accompagne.
Oui, vous savez, on apprend des choses, c'est des choses qu'on n'apprendrait pas autrement. Je crois que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Jusqu'à quel point ça participe à la formation, très difficile de dire. Parfois, on essaie de tirer là-dessus, d'en faire de des grandes significations. Ça influence, ça crée
Est-ce que vous pensez que si votre père n'avait jamais joué de musique, est-ce que vous auriez été attiré de la même manière par la musique ?
J'ai aucune idée.
Aucune idée.
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais par exemple, je sais comment fonctionnent les orgues. Je pourrais réparer un orgue mécanique. Je l'ai fait. Je sais quels sont les mécanismes. J'ai participé à ce genre de trucs. C'est le genre de choses qu'on n'apprendrait pas autrement. Donc, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que ça vous change la vie. Mais c'est quand même intéressant. Si je tombais sur un instrument qui ne marche pas et qu'il faudrait le faire marcher, j'arriverais peut-être à en faire quelque chose.
Alors, à 11 ans, vous commencez à jouer au piano, en tout cas, à vous mettre
devant
un clavier.
Non, j'avais 6 ans, je crois, oui. Allez voir. C'est ça, 6 ou 7, oui.
C'était une volonté de votre part ou c'était
c'était
des choses
parents,
que dans la famille.
Oui. Bon, il m'a dit, tu vas faire du piano. Hein.
Oui, la question ne se posait pas vraiment.
Non.
Donc, à 6 ans, vous commencez à jouer. Vous y trouvez du plaisir dès le départ ou
au départ, non.
C'était plutôt une contrainte.
Non, on peut dire que je ne me souviens pas très bien. Je crois que ça m'intéressait, mais je ne dirais pas que ça me passionnait au départ.
Mm-hmm.
Je l'ai fait, mais c'est au fur et à mesure que ça s'est développé.
C'était en pratiquant que vous avez
commencer à éprouver du plaisir
à jouer.
Et j'ai pris des leçons avec un instituteur qui était en même temps organiste lui aussi, Kunz, qui était de Strasbourg, mais qui était instituteur à Rosheim justement. Et qui, lui, m'avait donné des leçons. Il m'a donné des leçons pendant quelques années. Mais à partir du moment où je suis allé ensuite au collège à Aubernais, donc une petite ville à côté, j'ai jamais eu vraiment de leçons, en fait. J'ai tout appris moi-même.
Ce n'est pas votre père qui vous apprenait à jouer ?
Non. Et ça, il ne voulait pas et je pense qu'il avait raison. Enfin, bon, il m'a indiqué des trucs, c'est sûr. Non, mais si, quand même, il a participé. Mais pas de façon organisée, pas du genre comme le fait un professeur.
Un professeur.
Oui.
Donc à partir du moment où vous entrez au collège, c'est vous-même qui vous installez au piano pour jouer ?
Oui, c'est après, je n'ai jamais pris de leçons, sauf c'est tout à fait ce début. Et ensuite,
donc vous faisiez à l'oreille, comment ça se passait ?
Non,
vous aviez aussi des pratiques du solfège.
Voilà,
vous aviez aussi des pratiques du solfège.
J'ai fait mes gammes comme tout le monde, j'ai fait mon Tcherny, et puis mon Ranon, etc.
C'est déjà
peut-être défaut et peut-être un avantage. Un défaut, c'est qu'il y a peut-être des coups de main, si je puis, ou des coups de doigt que je n'ai pas pris, que je n'ai pas pratiqué et qui m'auraient peut-être facilité la vie. Mais par ailleurs, ça m'a forcé à trouver quelques solutions à des difficultés techniques qui ne sont peut-être pas nécessairement les meilleures, mais qui m'ont permis de...
Mais c'est quand même pas très commun, puisque à l'époque où vous entrez au collège, vous avez 12-13 ans.
Oui.
11 ans au sixième. Mais à cet âge-là... Au contraire, c'est plutôt une période à laquelle on va lâcher l'instrument de musique. Il y a une période où...
Non, vous avez raison, je dois dire que...
Vous-même, ne pas avoir de professeur qui soit derrière vous pour vous dire la semaine prochaine, vous allez me faire ça, vous allez travailler sur votre déviateur, par exemple.
Il est possible que j'en faisais moins.
Donc vous aviez déjà quand même une pratique, pour votre plaisir. Ça dépassait la simple convenance
je
de suivre...
Je pense qu'il y avait du plaisir déjà dedans, mais moins prononcé que ça n'est devenu plus tard.
Alors, on va pouvoir peut-être en venir là, à ces années plus tard. Mais alors, ce qui est assez particulier, c'est que vous êtes donc un grand chercheur en chimie. Et pour autant, c'est vrai que tout au long de vos années d'école, d'études, au collège, au lycée, et jusqu'à la fac, vous allez vous poser la question de savoir si vous allez faire de la philosophie. Vous êtes quand même assez littéraire. Hein. Vous apprenez le latin,
le
grec.
Moi, j'ai fait mes classiques. J'ai fait latin, grec.
Voilà.
Aubernais était un collège intéressant. On pouvait faire latin, grec, français, allemand. Anglais,
oui.
C'est-à-dire on avait 5 langues.
Vous faisiez tout, oui.
Et ça, c'était assez spécial, parce qu'en général, le classique est une langue moderne, mais là, il y avait deux langues classiques et deux langues modernes, ce qui était vraiment très bien. Et là, c'est la philosophie qui m'a beaucoup intéressé, grâce d'ailleurs à un ami que j'avais. On allait en bicyclette à Aubernais, et tous les matins, on prenait la bicyclette. Il y en avait un, Claude Koenig, malheureusement décédé depuis déjà assez longtemps, qui était 2 ans plus tôt que moi et qui me parlait de philosophie pendant qu'on pédalait vers Aubernais. J'ai commencé à lire les deux premiers livres. C'était l'introduction à la psychanalyse de Freud et puis la volonté de puissance de Nietzsche. Et puis il y avait du Kant un peu. Bon, c'était un défi.
C'était
un défi.
Pas
c'était
pas assez évident pour commencer en philosophie.
Non, mais je crois que mais c'était très intéressant parce que c'était très choquant aussi. Freud qui démontait un petit peu le fonctionnement, etc. Même si on peut poser un tas de questions sur ce que Freud peut dire, ce qu'il vaut par rapport au progrès actuel de tout ce qui concerne les sciences cognitives. C'était du point de vue de ce qu'il écrivait. Un choc par rapport à la façon dont se représentait le monde, de se représenter la façon dont nous fonctionnons. Et c'était très important pour moi. C'était l'un des bouquins qui m'a changé, je pense.
Vous a changé
Ah oui, dans ma façon de voir les choses.
Passer de l'état d'adolescent, d'enfant à adulte.
Oui, puis de réfléchir sur des trucs, sur quoi ceci, cela, qu'est-ce qui se passe, cet inconscient, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a toutes ces choses qu'il y a derrière, etc. Et ça fait énormément réfléchir.
Alors, ce qui est encore un peu particulier dans votre parcours, c'est que en 2 ans, vous obtenez 2 bacs différents, je crois.
Ou en tout cas, la même année.
La même année.
J'ai fait philo en juin et sciences ex en septembre.
Ce qui, là aussi, n'est pas commun. C'est-à-dire qu'en fait,
non, mais les deux m'intéressaient. En fait, pour le bac philo, j'avais déjà travaillé les livres de sciences ex, parce que la science m'intéressait beaucoup. Et donc,
Oui, mais entre l'intérêt, parce que vous pouvez porter de l'intérêt, mais vous convenez quand même que ce n'est pas commun. C'est quand même un parcours original.
On y arrive.
Et finalement, vous n'aviez pas forcément une prédestination vers la littérature ou vers les sciences.
C'est-à-dire Moi, je voulais me garder les deux ouverts parce que je n'étais pas décidé. Mm-hmm. C'est ça qui montre encore une fois qu'il n'y avait pas un chemin tout tracé. Hein. D'ailleurs, c'est à cause de cette influence de ces philosophies que j'ai lues donc assez tôt, que j'ai fait ensuite philo, et là, ça m'a beaucoup intéressé. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est surtout la philosophie de la connaissance, tout ce qui tournait autour de ce que c'est la réalité, la vérité, la preuve, un fait par rapport à une théorie, toutes ces questions qu'on se pose, et qui, ça c'est évidemment, quand dans cet âge-là, on a l'impression de toucher à des problèmes absolument fondamentaux, des grands problèmes, grand G, problème grand P. Et donc ça, c'est extrêmement attirant. C'est pour ça que je m'étais dit, la philosophie, c'est ce que je veux faire.
Et c'est pour ça qu'à la fac, vous vous posez la question de savoir ce que vous allez faire, si vous allez faire de la philosophie ou des sciences.
Oui, mais au début, je suis allé à Strasbourg, à l'université, avec l'intention de faire de la philosophie. Mais pour faire une licence de philosophie, il fallait, je ne sais pas si c'est encore le cas, faire un certificat scientifique au cours de la licence. Je me suis dit, si je commence par un certificat scientifique, je peux me laisser 2 portes ouvertes, et donc je peux toujours changer l'un à l'autre. Et à ce moment-là aussi, j'ai commencé à faire des manips de chimie dans l'arrière-cour à Rosheim.
Oui, c'est ce que j'ai pu lire également dans votre biographie.
Absolument.
C'est
qu'en
fait,
vous
allez chercher des composants pour être dans la cour de vos parents et faire des expériences.
Le droguiste du patelin, avec un autre ami qui était Gérard Mac, qui est décédé aussi malheureusement depuis, en première année d'université, OSPCN, sciences physiques, chimiques, naturelles. Ça aussi, c'était peut-être intéressant parce que c'était sans doute le certificat le plus général. C'était sciences physiques, sciences chimiques, naturelles. Et donc ça laisse là aussi, il y avait toute cette possibilité de diversité, c'est des choses un peu ouvertes parce que je n'étais pas très décidé. Et c'est là que j'ai commencé à faire des manips de chimie.
Et quelles étaient vos expériences par exemple?
J'ai fait la synthèse de l'indol, j'ai fait un certain nombre de trucs. La première fois, je me suis répandu sur le pantalon, ça sentait un peu fort. Mais bon, on apprend. Hein.
Vous avez des petites explosions?
La première, oui, c'était une distillation qui a sauté. Bon.
Et les parents, jamais inquiets?
Bon, ils n'étaient pas là.
Ils n'étaient pas là, oui, effectivement, on va aller mieux éviter leur présence. Donc finalement, vous continuez dans les sciences?
Oui, après le SPCN, là, je me suis beaucoup intéressé à la science. Surtout cette...
Vous laissez de côté la philosophie, finalement?
Oui, du moins, comme profession, oui. Pour une raison aussi, c'est que peut-être là, les philosophes ont sursauté, mais ce que je m'étais dit, en philosophie, il y a des très belles théories, on saisit d'énormes problèmes, mais je n'ai pas de façon de contrôler. Je n'ai pas d'expérience que je peux faire pour savoir si ma théorie a une validité plus qu'une autre. Et alors, je me dis, après tout, les sciences, c'est intéressant. En plus, je crois que cette philosophie aussi m'avait conduit à penser un peu système. Vous savez, c'est peut-être...
Système, c'est-à-dire ?
Système, c'est-à-dire, par exemple, Kant a fait un grand système de pensée, de réflexion organisée. De même, Freud, la psychanalyse, est un système qui s'est organisé, qui est quelque chose de très structuré, qui est une construction. Mm-hmm. Et la chimie m'est apparue aussi comme une grande construction où on peut transformer les substances les unes dans les autres suivant des lois, des règles qui sont plus ou moins bien établies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours prédire ce qu'on va obtenir,
aussi.
Mais ce sont quand même des façons bien structurées, bien raisonnables, des règles établies sur l'expérience, mais aussi sur la compréhension de la façon dont les molécules réagissent. Et ça m'a paru d'être un système très cohérent, en même temps très puissant. Parce que c'est assez prométhéen, la chimie. Hein. Vous mélangez dans un ballon 2 trucs et vous dites maintenant je vais savoir ce qui va en sortir. Et c'est quelque chose que les gens ne sentent pas. Beaucoup de gens me disent la chimie ne m'intéresse pas parce qu'on a ceci,
c'est
cela.
C'est compliqué, ça paraît quand même comme quelque chose d'assez compliqué.
D'accord, mais on reviendra là-dessus sur la complication.
Oui.
Mais ce qui est quand même absolument fantastique, c'est que vous transformez l'intimité de la matière. Hein. Ce n'est pas simplement l'apparence, ce n'est pas l'extérieur. La composition même, vous avez une action sur la composition de la matière. Ça m'a semblé fantastique. Et bon.
Voilà, que vous vouliez regarder de plus près. En tout cas, vous vouliez intéresser de plus près.
Oui, et puis ça m'a semblé vraiment quelque chose que je voulais continuer. C'est aussi
très structuré, comme donc, moi je le disais tout à l'heure, compliqué aux yeux de beaucoup, ou à mes
yeux
aussi.
Mais en même temps très logique, très structuré. La façon de transformer un produit en un autre, il y a un certain nombre de réactions que l'on peut faire. Et c'est quelque chose d'extrêmement structuré, organisé.
Ça. Vous vous intéressez au tout début à la structure chimique des organismes, c'est ça ?
Non. Ma thèse est portée sur la structure, disons, de certains composés naturels qu'on trouve dans les arbres, par exemple.
Les résines, c'est ça ?
Oui, les résines. Enfin, simplement, moi, j'avais travaillé sur certains produits qui se trouvent dans l'écorce de bouleau. Le petit truc blanc, un bouleau,
oui.
Il est tout blanc.
Oui, oui.
Si vous grattez le blanc, il y a une petite poudre. Et cette poudre est un produit, c'est d'ailleurs un gaz assez extraordinaire. C'est presque un produit, il y a 30% de ce produit dans la poudre. Vous grattez la poudre, vous l'extrayez avec un solvant organique, vous obtenez un produit chimique. Assez défini, un terpène, comme on l'appelle, un triterpène.
Voilà, les propriétés physico-chimiques du triterpène.
Des triterpènes, oui, certains triterpènes, c'est ça. Oui, c'était ma thèse.
Donc ça, c'était donc votre thèse dans les années 60, à peu près
J'ai fait ma thèse en 63.
En 63.
Et là, Guy Hourisson a joué un rôle absolument fondamental, parce que pendant les SPCN, la chimie m'a déjà beaucoup intéressé. Et ensuite, quand j'ai eu pendant la licence, j'ai choisi. Là, j'étais encore laissé les portes ouvertes parce que, en commençant la licence, j'avais fait une licence qui s'appelait chimie-biologie. Ça me laissait encore la possibilité d'aller chimie ou biologie. Et ensuite, j'ai eu les cours de Guy Hourisson qui étaient vraiment très, très intéressants. Et ça m'a convaincu que c'est ça que je voulais faire.
Et vous entrez donc dans son laboratoire en 1960.
C'est ça.
Et puis alors, en 1963, vous partez.
Oui,
comme la
thèse,
plupart des grands chercheurs,
je suis parti.
Vous partez donc après votre thèse aux États-Unis.
Oui, oui.
Dans le laboratoire de Robert Burns.
Là, c'est aussi Hourisson qui m'avait dit que Woodward serait la personne chez qui je devrais aller. Bon, et j'ai été accepté là-bas.
Et alors là-bas, qu'est-ce que vous avez fait de différent ?
J'ai fait des travaux très synthétiques, c'est-à-dire pendant ma thèse, j'avais eu en fait une grande chance aussi. Vous savez, souvent, il faut être là au bon moment.
Et la chance joue aussi.
Circonstances sont ainsi. Dans ma thèse, elle a commencé de façon chimique, je dirais classique, c'est-à-dire avec les techniques physiques d'analyse des structures qui étaient des techniques classiques. Et ensuite, au cours de ma thèse, est sortie une nouvelle méthode spectroscopique, la résonance magnétique nucléaire, d'ailleurs celle qui a conduit à l'imagerie magnétique
tout à fait,
que tout le monde
utilise
maintenant et qui se trouve dans les hôpitaux. Et cette nouvelle technique physique est une révolution pour la chimie. Et Hourisson m'avait chargé de superviser cet appareil qui venait d'arriver. Et ça a une très forte influence qui m'a permis deux choses. D'une part, de faire de la chimie-chimie, la chimie des produits naturels, chimie des substances naturelles, triterpènes, et en même temps d'approfondir quelque chose qui était quand même, du point de vue physique, quelque chose de difficile, c'était quelque chose de tout neuf, la résonance magnétique nucléaire dans sa théorie, en prenant le fameux bouquin de Abraham, Les principes du magnétisme nucléaire, un bouquin extraordinaire et dur.
Dur pour vous ?
Oh ouais, faut le voir, C'est pas simple. Ça m'a permis, ça m'a ouvert aussi vers des choses beaucoup plus physiques qui ont eu une influence dans les années après le postdoc.
Voilà, vous vous disiez en fait dans votre biographie que vous avez rédigé, puisque quand on devient prix Nobel, on rédige une petite biographie.
Oui.
Vous disiez que c'était une partie décisive dans votre carrière, en tout cas un stage décisif.
Absolument.
Dans votre parcours.
Oui. J'ai donc fait vraiment de la synthèse pure et dure, c'est-à-dire j'ai participé à la construction, une synthèse pour ceux qui ne sont pas chimistes, cela veut dire que l'on construit pas à pas une molécule plus ou moins compliquée en mettant ensemble à la bonne place, en bonne disposition correcte, les différents atomes qui la constituent. C'est-à-dire que si vous comparez une molécule à un bâtiment, l'Institut de France par exemple, s'il est fait de pierre, Il faut mettre chaque pierre à sa place, au bon endroit, pour faire le bâtiment final. Et là, j'ai participé à ce qui était à l'époque et qui reste l'un des grands moments de cette construction chimique, la synthèse de la vitamine B12, qui est une structure très compliquée.
Vous avez reconstitué le puzzle.
Oui, c'est un puzzle dans ce sens, si l'on veut, mais enfin, on se connaît très bien. C'est pas un puzzle, vraiment, c'est plutôt un jeu de construction. Mm-hmm. On sait exactement comment c'est fait, mais on ne sait pas qu'il faut faire pour l'atteindre. La partie puzzle se trouve dans la façon de connecter et pas dans la forme de l'objet lui-même. Oui. On la connaît. Et donc, j'ai participé à ça. C'était une entreprise à l'époque déjà tout à fait extraordinaire parce que cela a mis en œuvre quelque chose comme de l'ordre de 150 années chercheurs. Et moi, j'ai participé en 63-64, on était une dizaine, et ça s'est étalé sur 10-12 ans, avec en plus une collaboration qui s'était établie entre le groupe de Woodward à Harvard et le groupe de Albert Eschenmoser à l'ETH, à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Et c'est les efforts conjugués des deux qui ont abouti, dans le début des années 70, à la réalisation de cette synthèse, à la terminer.
Donc entre 1960
ça a commencé, et... ça a dû commencer, le début exact, je pense que ça devait être vers les années 60, donc ça a mis 12 à 15 ans.
Oui. On marque une courte pause, Marie-Hélène, on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission en habit vert. À tout de suite. Jean-Marie-Hélène, donc je reprécise pour nos auditeurs qui viendraient de nous rejoindre que vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 1985 et puis surtout en 1987, prix Nobel de chimie. On vient de se quitter à Harvard. Je crois que vous vouliez préciser quelque chose justement sur Harvard.
Oui, j'ai donc participé à la synthèse de la vitamine B12, mais Harvard B12 est aussi un endroit comme les très grandes universités où l'on peut apprendre un tas de choses. Et pour moi, ce n'était pas simplement faire la B12. Avec Woodward, évidemment, c'était assez extraordinaire. Et au début, c'était une relation surtout de maître à élève, à chercheur, on sait, de mieux en mieux connu. Mais je voulais faire autre chose aussi, et dans un endroit comme cette université, évidemment, on a accès à beaucoup de choses. C'est là que toujours dans cette façon un peu de défi physique, de comprendre aussi la physique, comme pendant ma licence, j'avais fait exprès un certif d'optique pour me prouver que j'étais capable de le faire.
Ensuite, vous êtes vraiment multitâche.
Et ensuite, la résonance magnétique, et là j'ai appris ma mécanique quantique dans le Messia, en suivant les cours de mécanique quantique. Et j'ai aussi eu la possibilité de participer au début d'élaboration des fameuses règles de Woodward-Hoffman, parce que Roald Hoffman est un très très bon ami, c'était un jeune gars comme moi à l'époque, et Roald, c'était mon premier ami américain, ça reste un ami très très proche.
Donc ce fut vraiment une année productive, hein, pendant un an.
Oui, une année de formation, productive, mais surtout de formation. Je voulais apprendre le plus de choses possible. J'avais aussi fait des manips de résonance magnétique sur un appareil de John Baldershwiller, qui est aussi là-bas. Donc là, je m'étais fait un ensemble de connaissances qui m'ont ouvert par-delà et à côté de la synthèse chimique, et qui m'ont beaucoup été très utiles ensuite aussi.
Ensuite, c'est-à-dire dans...
Au retour. Quand j'ai monté mon laboratoire.
Alors voilà, on va peut-être revenir justement à ce moment-là. Donc, suite à cette année aux États-Unis, vous revenez à Strasbourg.
Oui.
Où vous officiez
dans le groupe de Guy Russon, j'étais au
voilà,
CNRS.
Voilà, vous revenez au CNRS.
Oui.
Vous exercez également en tant que maître de conférence à l'Université de Strasbourg.
Oui, et puis en professeur ensuite.
Et puis vous allez...
Parce que CNRS, vous avez un petit point là, peut-être oui. aussi... Je regrette que le CNRS se soit transformé en quelque chose qui n'a plus que pratiquement deux étapes, chargé de recherche et directeur. Mm-hmm. À l'époque, vous étiez stagiaire, attaché, chargé, maître, directeur.
Oui, il y avait quand même
vous
plusieurs
voyez progresser. Mm-hmm. Je trouve qu'il est aberrant d'avoir un système comme l'actuel. Et là, je veux le dire très fortement.
Mais vous le dites très fortement.
Comme stagiaire, on n'était pas titulaire. C'est très bon. Je pense qu'à cet âge-là, on ne doit pas être titulaire. Et là aussi, je peux le dire très fortement.
Là, pour le coup, donc vous, au CNRS, vous aviez quelle fonction ?
Moi, j'étais stagiaire de recherche, puis attaché de recherche,
voilà,
non
vous
titulaire.
Avez passé par, voilà, vous avez passé les étapes.
Fallait faire ses preuves. Mm-hmm. Et je crois qu'il faut faire ses preuves. On ne doit pas être fonctionnarisé trop jeune.
Alors, vous avez fait vos preuves, et puis...
Oh bah, j'ai essayé de les
vous
faire.
Vous avez essayé de les faire, et puis, donc, vous allez ouvrir votre laboratoire, votre
c'est
propre
ça,
laboratoire.
Oui.
On est à ce moment-là, à quelle période
Eh bien, en 64, je suis revenu, j'ai commencé par travailler moi-même un peu tout seul, et puis...
Toujours sur la résonance magnétique
non,
nucléaire
alors, oui, absolument. Alors, justement, plus tellement sur les produits naturels, parce que bon... Comme Rousson m'avait dit, il y a plusieurs types de scientifiques. Ceux qui font toute leur vie leur travail de thèse, ceux qui font toute leur vie leur travail de postdoc et ceux qui font autre chose. Ça m'était resté. Donc, j'ai fait autre chose.
Autre chose.
Et je voulais, donc, au début donc, de mon labo, je me suis résolument orienté vers des choses très physiques. Grâce au fait que j'avais donc eu en main ces résonances magnétiques nucléaires, mais encore plus physiques que ça. Nous publions à l'époque dans Molecular Physics, dans des revues physiques.
Des grandes revues, oui.
Et, des grandes revues, oui, mais enfin, c'était surtout parce que c'était des revues physiques, aussi dans les revues de chimie, mais mm-hmm. c'était dans les revues de physique aussi, et donc je voulais faire autre chose, et c'est de là que est sortie une des directions du début du labo, qui était la chimie à la frontière de la physique, tout en gardant aussi sous-jacente cette possibilité de s'ouvrir plus vers la biologie, ce qui s'est fait assez rapidement par cette approche sur la reconnaissance moléculaire. Mais à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. C'était simplement l'idée d'essayer de comprendre comment une molécule pouvait interagir avec les ions alcalins, sodium, potassium, qui était donc la partie qui a ressurgi plus biologique, plus à la frontière de la biologie.
Voilà, c'est ce que vous nous disiez en fait au tout début de cet entretien.
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir parler de la chimie supramoléculaire ?
Pas encore, non,
pas
non.
Encore.
Non. Là aussi, c'est venu par élargissement progressif mm-hmm. du point de vue. Bon, au début, comme je l'avais indiqué avec Roald Hoffman, j'avais fait à Harvard des calculs de mécanique quantique appliqués à la chimie. Donc j'avais aussi au début du labo, en gros, trois domaines après quelques années. L'un, de la chimie quantique appliquée aux molécules organiques. L'autre, mise en œuvre de la résonance magnétique nucléaire pour l'étude d'un certain nombre de phénomènes de base, des moléculaires, les mouvements dans les liquides, ce genre de choses. Et puis cet autre aspect qui était donc la base des travaux ultérieurs sur la façon dont une molécule peut sélectivement lier cette petite sphère, les ions alcalins. Et ça, c'était vraiment au début spécifiquement lié à cela. Mais vous voyez, par induction progressive, on arrive à l'idée suivante, c'est que s'il y a vraiment une relation clé-serrure entre les petites boules et leur cavité. C'est quoi ? Il y a une sélectivité, et c'est de là qu'est sortie l'idée de reconnaissance moléculaire, même en tant que terme et concept, n'est venu que quelques années après, quand la généralisation s'est pratiquement poussée à formuler cette idée, puisque s'il y a une distinction entre différents objets chimiques suivant leur taille, c'est un phénomène de reconnaissance, ce qui permet de dire, voilà, il n'y a pas que les sphères, il y a d'autres objets, alors les objets, les clés sont devenus plus compliqués, des tétraèdres, des trucs plus grands, des trucs plus petits, d'autres formes différentes. Ensuite, l'étape d'après était de se dire, oui, mais cette reconnaissance, ok, elle se fait, elle peut mettre en œuvre des clés, des objets de plus en plus compliqués, mais à la base, c'est quoi ? Et à la base, ce que c'est la façon dont les molécules, en quelque sorte, se causent, interagissent, s'accrochent les unes aux autres, et ça devient...
Vont s'imbriquer.
S'imbriquent, oui, mais s'imbriquer veut dire, oui, effectivement, il y a cette façon de s'imbriquer, mais pour s'imbriquer, il faut qu'elles se lient, c'est-à-dire qu'il y a une interaction, quelque chose qui les attache, qui les attire l'une à l'autre. Et ça, ce sont des forces qui ne sont pas les forces classiques, si on peut dire, de la chimie. Bon, un tout petit cours de chimie, là.
Oui, bien sûr, non, mais c'est très bien, c'est passionnant.
Quand vous construisez une maison, vous avez des briques. Ces briques sont liées les unes aux autres, de façon solide. Il faut que ça tienne. C'est ce qu'on appelle en chimie les liaisons covalentes qui lient les atomes entre eux. Une molécule est constituée d'atomes qui sont les briques, et le chimiste qui fait la synthèse, c'est de comprendre comment assembler ces briques par des connexions fortes. Une fois la maison constituée, vous avez votre molécule. Mais ensuite, il peut y avoir des interactions entre les molécules, et ces interactions reposent sur des forces qui ne sont pas de même, qui sont, bon, du point de vue physique, ça se décrit par la même équation de Schrödinger, etc. Mais dans sa nature, ce sont quand même des interactions différentes qu'on appelle les forces intermoléculaires ou non covalentes. Et c'est donc celles-ci qui deviennent importantes dans cette reconnaissance moléculaire. C'est aussi donc un assemblage de molécules entre elles. Et cet assemblage est par-delà la molécule, donc supramoléculaire. C'est là que s'est sortie l'idée, donc par une espèce d'induction progressive entre faire des serrures qui reconnaissent des boules, parce que c'est intéressant pour sodium, potassium, l'influx nerveux, puis tout le pataclan. Et ensuite, là-dessus, cela donne l'idée qu'il y a de la reconnaissance entre les objets, et la reconnaissance, comment fonctionne-t-elle ? Par la mise en œuvre de ces interactions non covalentes qui unissent à la fois la géométrie, la forme, mais entre des formes compatibles, complémentaires, il faut qu'il y ait des interactions. Sinon, évidemment, il n'y a pas de reconnaissance. Et c'est de là que sortit l'idée, donc, supramoléculaire.
De chimie supramoléculaire. Voilà, vous venez nous expliquer très simplement et avec beaucoup de pédagogie ce qu'était la chimie supramoléculaire.
Vous savez, j'ai dû faire ça depuis un certain nombre de fois, depuis 87 notamment.
Mais en tout cas, c'est vrai que là, au moins, on a une vision claire de ce que ça peut être.
Parfois, je dis aussi, si on est plus littéraire, les atomes, c'est les lettres.
Oui.
Les molécules, c'est les mots. La supramoléculaire, c'est la phrase.
Hein ? Voilà, encore une autre version, une autre métaphore.
Voilà.
Alors, comme vous le disiez, en 1987, on avance peut-être un petit peu rapidement dans les années, mais en 1987, donc, c'est ce prix Nobel de chimie.
Oui.
Qui couronne justement ses recherches.
Si on veut, ça reconnaît ce qu'on a fait avant, d'accord.
Et ce prix Nobel, donc, vous l'avez reçu avec deux autres personnes.
Oui.
Et à la suite de ce prix Nobel, comme on le disait au début de notre émission, vous êtes donc passionné de musique, et avec ce prix Nobel, vous allez notamment vous offrir un piano, ce qui peut paraître original, en tout cas est une note, gaie dans cette...
J'ai toujours voulu avoir un piano qui...
Je suppose que vous aviez déjà un piano, vu que vous savez le son.
Oui, j'avais un Neupert, un piano à queue Neupert, qui est un bon modèle. Mais Neupert a surtout fait des clavecins, mais c'était un bon piano, un bon piano à queue. Là, je me suis acheté un Steinway. Et dans un piano, il y a quelque chose de très prenant, il y a quelque chose de très... Moi, je suis très sensible au son. en piano à queue, ça a des sonorités extraordinaires. Et puis bon, je crois que ça inspire aussi, surtout, moi j'aime bien improviser, parce que bon, c'est la chose la plus facile à
voilà,
faire.
Voilà, c'est ce que vous nous disiez avant de commencer cette émission.
Le son suggère des choses, on laisse courir les doigts, on peut pas jouer deux fois la même chose. Moi, j'arrive pas à me souvenir de ce que je viens de faire. Mais c'est le son qui suggère des choses, et chaque piano a des sonorités différentes, et j'aime bien les utiliser tous, avoir, bon, maintenant, un Bechstein, un Steinway, un Feurich, un Schimmel, d'autres.
On sent quand même le connaisseur, hein. Ça dépasse
les pianos, je connais les pianos. Je dis pas que je les connais autant qu'un professionnel, mais enfin bon, j'aime bien le son d'un piano, et en général, quand je fais une conférence dans une grande salle, je sais que derrière la scène, en général, il y a un piano à queue. Alors, j'essaie de me glisser là-dedans.
Alors, vous avez essayé de trouver le piano à queue.
Ah oui, j'ai souvent trouvé.
Et vous l'avez souvent trouvé. Je vous propose justement de vous arrêter peut-être 2 minutes sur la musique, si on y revenait quelques instants. Est-ce que pour vous, il y a une interaction entre la science et la musique ? Est-ce que vous pensez que c'est...
Oui, c'est une question, on pourrait épiloguer là-dessus, et notamment peut-être faire des connexions, des relations qui sont souvent un peu artificielles. Pour moi, je crois que surtout, il y a d'une part, j'aime bien la musique qui est très tendue, très forte, je dirais presque expressionniste, mais en même temps, j'aime bien la musique très structurée. C'est pour ça que j'aime par exemple beaucoup les
couturiers. On retrouve cet aspect très structuré de la chimie.
Oui, tout à fait, mais c'est tout à fait correct. Mais c'est une structure à la fois horizontale et verticale. C'est une structure bidimensionnelle. On peut dire que c'est tridimensionnel parce qu'il y a l'intensité sonore en plus. Donc il y a l'ordre vertical, l'horizontal et puis la troisième dimension qui est l'intensité sonore, et je crois que ça c'est quelque chose, et c'est aussi dans, c'est quelque chose d'important pour moi, et c'est aussi
est-ce que la musique,
ça se voit dans ce que j'aime comme type de musique.
Est-ce que la musique c'est une manière de laisser s'échapper, de laisser parler son imaimaginaire, alors que
pour la chimie
ou la physique?
Non, l'imaginaire est extrêmement important en chimie. Non, ça c'est pas, ça a l'air une fois que c'est terminé d'être ça doit être tout à fait rationnel, reproductible à n'importe quel point du monde, c'est de la science. Mais l'imaginaire et la façon dont on approche le problème, d'une part, est très individuel. Peut-être les mêmes travaux que ceux que nous avons faits ont été faits certainement même par d'autres, mais pas de la même façon. Et c'est là que se retrouve l'individualité de chaque scientifique. Pas tellement dans le résultat. L'équation est la même pour tout le monde. Mais la façon d'approcher le problème, la façon de voir ce qui l'entoure, ça c'est quelque chose de très individuel. Il y a quand même, chaque personne est là-dedans. Et là aussi, je pense que la musique a peut-être aidé, bien que je ne veuille pas du tout essayer de trop tirer sur la ficelle, voir trop de connexions là. Mais je pense quand même que l'imagination est quelque chose d'extrêmement important, le fait de pouvoir... ou d'avoir une rapidité d'envisager des choses différentes, de voir la diversité. Et l'imagination, c'est à la fois une diversité, une variété.
Une ouverture aussi.
Une ouverture, une différence par rapport à ce qui est établi. Et je crois que ça en science est très important, et en musique aussi.
Alors quand on parle
de
musique,
de façon générale.
Oui. Quand on parle de musique avec vous, ce n'est pas la musique électronique, c'est la musique classique. Peut-être que
encore que, la musique électronique est intéressante parce qu'elle donne accès. Pierre Boulez est un bon ami, et je crois que s'il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup pratiqué les approches non classiques, si l'on peut dire. Non, mais c'est très intéressant. La fabrication de sons artificiels, c'est une exploration intéressante, avec les... évidemment, moi je suis plus sensible simplement parce que sans doute il y a eu des plus grands compositeurs utilisant les instruments classique, mais il y a dans la possibilité de fabriquer des sons nouveaux de façon physique, quelque chose d'une grande ouverture, quelque chose de très intéressant, des œuvres complètes, des œuvres qui sont à la fois intéressantes par les sons, la structure de l'ensemble, et en même temps le son lui-même, la façon de le produire, de produire des sons que les instruments ne font pas, mais de les produire de façon électronique. Ça, c'est très intéressant.
D'accord. Donc, en fait, oui, finalement, vous n'êtes pas fermé.
Ah non, non, pas du tout, pas du tout. J'écoute. Je vais à Musica à Strasbourg, le Festival de musique contemporaine. Ça m'intéresse énormément de voir ce qui se passe. Par exemple, Pascal Dussapin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, les musiciens, les compositeurs actuels, bien sûr. C'est un domaine qui se développe. C'est un domaine qui doit chercher ses voies.
Oui, bien sûr. Et qui a,
mais on a le nez dedans. Alors, c'est pas la même chose que, bon, Beethoven, c'est Beethoven. Hein. Mais on n'a plus le nez dedans. Donc, on sait ce que c'est.
Oui.
Actuellement, le nez dedans, on sait où ça va, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qui est mieux, difficile de dire ce qui est mieux. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus original, de plus fort, de plus innovateur.
Alors, vous le disiez il y a quelques minutes, votre manière de penser structurée se retrouvait dans vos goûts musicaux. Est-ce que c'est le cas, par exemple, avec Tristan et...
Non, mais il y a les deux. Il y a d'une part la structure et d'autre part aussi l'intensité, la façon tendue. Et par exemple, Bartok est un de mes préférés, parce que, bon, là aussi, c'est une musique extrêmement organisée, très structurée, mais en même temps extrêmement tendue et très originale. Il y a des choses... Bon, pour moi, Bartok est un des plus grands compositeurs. Je le mets au rang de Beethoven, par exemple, qui est, pour moi, l'un des tout grands.
C'est vraiment le plus grand pour vous?
Oui, c'est difficile à dire. Mais je pense que quand on a écrit la 32e sonate pour piano, on a fait le bien de l'humanité.
Un autre compositeur, c'est Wagner.
Oui, j'aime beaucoup. Bon, Wagner, évidemment, c'était un drôle de bonhomme dans un sens, mais la musique qu'il a écrite, c'est génial. Et Tristan, pour moi, est
alors,
certainement
voilà.
L'une des grandes œuvres, l'un des plus grands opéras qui ait jamais été écrit.
Tristan moi, und là. Isolt.
Oui, Tristan et Isolt, c'est ça, absolument. Et c'était aussi du point de vue invention musicale, du point de vue technique, très intéressant par rapport à ce qu'il avait écrit. Bon, j'aime aussi Le Ring et d'autres choses, bien sûr.
J'ai peut-être d'écouter un extrait de Tristan,
si vous
et
voulez.
Puis comme ça vous pourrez nous en dire quelques mots sur ce que vous pensez de cet extrait.
Oui.
Alors on se retrouve dans quelques instants. Alors, suite de notre émission Nabivert en compagnie de Jean-Marie Laine, on vient d'écouter un extrait de Tristan und Isolde de Richard Wagner. Qu'est-ce qui vous touche dans cet opéra, Jean-Marie Laine ?
Bien d'abord, du point de vue musical, c'est un opéra qui est tout à fait parmi, du point de vue de son invention musicale, de sa composition, c'est un des opéras qui a fait une révolution totale et qui reste l'un des très grands sommets de l'opéra. En plus, la musique est extrêmement prenante, très passionnée, très forte, et tout en étant extrêmement construite par ces leitmotifs qui reviennent, mais qui vous gardent un espèce de fil conducteur, mais avec une expression très, très forte, très prenante, et aussi en plus la partie même purement littéraire de la mort d'Iseux, surtout vers la fin, Ertrinken, Versinken, les termes, les vers eux-mêmes sont très beaux.
L'histoire en elle-même.
L'histoire, oui, l'histoire est intéressante, Tristan Iseux, etc. Mm-hmm. Bon, bah, si, c'est bien, c'est
mais
bien.
Surtout la manière dont c'est rapporté.
On aurait pu refaire n'importe quoi de cette histoire, hein, mais là, il faut dire que c'est spécialement un chef-d'œuvre absolument inouï.
Mais qu'est-ce qui séduit l'oreille du pianiste que vous êtes, pianiste organiste ?
Oh, c'est pas le pianiste, non, pas du tout. Moi, je suis pas le piano, n'est pas. Il se trouve que je pratique
l'oreille
le piano.
L'oreille du musicien.
Ben justement, cette richesse des sonorités et en même temps cette tension, la tension. Mais ça n'a rien à voir avec la musique en général. Moi, j'aime bien les œuvres de façon générale très fortes. J'aime bien les expressionnistes allemands en peinture, par exemple. J'aime bien Edvard Munch, le Norvégien, parce que c'est des œuvres fortes, des œuvres qui ont quelque chose d'autre que simplement la platitude de l'objet. Et platitude, je veux dire du point de vue plan.
Oui.
Hein,
pas, oui. Dans son sens. Dans le fond de l'histoire,
bien sûr. Et c'est pour ça aussi, par exemple, si je vous dis quels sont les opéras que je préfère, je veux dire, je suis pas limité à ça, mais ça se voit tout de suite. Quel est Tristan, Wozzeck de Berg, Don Juan, dont on pourra peut-être en parler un peu,
bien sûr.
Elektra et Salomé de Strauss. Quand Astrid Varney commence par Allein wie ganz allein, quand Elektra entre, c'est extraordinaire.
Alors, vous me disiez justement pendant l'écoute de cet extrait, donc Tristan und Isolde, vous disiez que finalement, vous n'aimiez pas forcément les choses très gaies.
Non, j'ai rien contre la gaieté, mais oui, ça c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Mais du point de vue artistique,
voilà,
j'aime plutôt les choses qui sont complètes, qui vous prennent en entier et qui vous...
Qui vont vraiment vous remuer.
Vous remuent, absolument, absolument. C'est vraiment, c'est tout à fait correct.
Il y a
c'est
plus
pour ça aussi que, par exemple...
Il y a plus de créativité dans la douleur que dans la
gaieté. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. Et c'est plus profond, ça touche plus profond. Mais pas seulement la douleur, mais à nouveau, je suis désolé, la structure, la complexité de l'objet... Les quatuors, par exemple, j'aime beaucoup. Le 15e quatuor de Beethoven est un truc absolument extraordinaire par les sonorités. Il y a un des quintettes de Mozart pour deux altos qui sont aussi fantastiques, mais, ou les quatuors de Bartok, le 3e, le 4e.
Ah, et on revient à Bartok.
Ah, ben oui, absolument. La sonate pour deux pianos et percussions, si quelqu'un l'avait écouté, ben, il rate quelque chose.
Donc, vous vouliez également dire quelques mots sur Don Giovanni.
Oui, Don Giovanni, d'une part, c'est une histoire qui me plaît beaucoup. Parce qu'en elle-même, son interprétation, c'est l'une de ces histoires où je crois que là, contrairement à ce que je pense souvent des metteurs en scène qui défigurent ce que le compositeur ou l'auteur voulait, et je ne leur donne pas le droit de faire ça, personnellement, ils font ce qu'ils veulent.
Mais vous parlez des auteurs actuels ou vous parlez
Non, de tous. Bon, il y a des gens qui le font avec une cohérence. Par exemple, Sellars a fait des mises en scène de Mozart qui, pour certains, étaient affreuses. Mais j'ai vu quelques-unes, par exemple Così fan tutte, qui étaient cohérentes et qui marchent. En ce qui concerne Don Juan, c'est une histoire qu'on peut voir de plusieurs façons. L'interprétation classique, c'est l'affreux tombeur de femme.
L'affreux.
L'exploiteur.
Oui.
Ça, c'est certains gens le voient comme ça.
Oui.
Pour l'autre, c'est Viva la libertà. C'est la liberté. Et cette liberté se traduit par une transgression sociale. Hein, c'est intéressant.
Oui.
Et là, j'ai eu une petite histoire peut-être qui peut
être intéressante. Mais vous m'avez dit que vous aviez une petite...
J'ai vu un des premiers... pas des premiers, mais j'ai vu le Don Giovanni à la salle en Prague où Mozart l'a créé, le Théâtre des États à Prague.
Ouais.
Très beau théâtre, magnifique. Et c'était encore à l'époque, juste après... c'était juste après l'ouverture. Oui, je crois que c'était peut-être juste au moment de l'ouverture. L'ouverture du Rideau de Fer.
Oui.
Et alors, il y avait une mise en scène que j'ai trouvée assez extraordinaire. Je vous la raconte rapidement. Pendant l'ouverture, Don Juan entre sur scène. Il n'avait rien à y faire, mais il entre. Il a une pomme en main. Il pose la pomme sur la scène, au début, au bout de la scène. Et puis, bah, bon, ça se déroule, etc. Alors, à un moment donné, quand le commandeur vient pour entraîner le méchant Don Giovanni en enfer, il dit « donne-moi la main hein. ». Mm-hmm. Alors, il donne la main, et normalement, tout disparaît. Mais là, Don Juan, il plie la main du commandeur et le met à genoux devant lui. Ah ah, intéressant.
Ah mais oui.
L'autre établi, le commandeur représentant de l'autre établi.
Oui, oui.
Bon, ensuite, ça continue, il y a les dernières scènes où tout le monde chante « Le méchant a été puni », etc., etc. Et pendant qu'il chante ça, il y a le Don Juan qui, en principe, est maintenant en enfer, qui revient. Et au début de la scène, il prend la pomme et il la croque. Intéressant. La pomme, hein.
Oui,
croquer la pomme.
Bien sûr.
Vous vous souvenez?
Oui, oui, mais c'était il y a bien fort longtemps maintenant. Mais...
ah, c'est très intéressant. Je crois que c'est une mise en scène qui était vraiment... Bon, évidemment, tous les Pragois et tous ceux qui étaient là-bas ont parfaitement compris
oui,
ce
bien
que
sûr.
Le metteur en scène voulait
dire. Mais avec beaucoup d'humour en même temps.
Oui, c'est vrai, mais je crois
gravité,
que c'est...
Humour
oui,
et gravité.
C'est beaucoup de gravité aussi, parce que pour moi, la pomme, c'est autre chose aussi. C'est la pomme de la connaissance qui est interdite. Or, la science...
Ah, vous la voyez, en fait, comme la pomme de la connaissance.
Ah oui, c'est quand même... Enfin, la pomme de la transgression.
Mm-hmm.
La pomme que Ève donne à Adam.
Oui.
L'arbre de la connaissance interdit par nos religions établies. Et que
donc là, c'est
ne
les scientifiques
pas.
Qui parlent, là.
Absolument. La science, c'est la connaissance. La science, c'est la pomme qu'on croque.
Alors justement, on va peut-être revenir un petit peu à la science et terminer peut-être par votre actualité actuellement. Vous êtes
oui.
toujours, vous travaillez toujours dans votre laboratoire.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et alors, quelles sont vos recherches actuelles avec, vous avez une quinzaine de personnes qui vous accompagnent, je crois.
Oui, il y a une quinzaine, plupart des post-docteurs, mm-hmm. Quelques thésards, enfin un tiers de thésards en général, et puis deux tiers de gens déjà en post-doc. Et actuellement, bon, on continue les travaux, disons, c'est toujours chez moi, ça a toujours été relativement, bon, à la fois, bon,
vous en
essayant d'explorer
biologie,
les
hein.
choses. Oui, et,
plus
oui,
ou moins.
Ah oui, tout à fait, parce ouais. que la biologie est l'expression la plus complexe du monde moléculaire que nous connaissions. Hein. Pour moi, la matière, c'est quoi? L'univers s'est développé, il est parti après le Big Bang. D'un ensemble qui était uniquement de l'énergie, puis cela a donné les particules ont fait des atomes, les atomes ont fait des molécules, les molécules sont mises ensemble pour faire des structures de plus en plus compliquées, la vie est apparue de façon on ne sait pas très bien pour l'instant, mais enfin elle est sortie là quelque part. Et puis ensuite, l'organisme vivant est devenu un organisme pensant, ce qui est encore plus compliqué.
Mmh.
Et donc, essayer de participer à la compréhension de ce que je considère, moi, comme le problème scientifique le plus important, le plus basique, pas nécessairement le plus important, qui est de savoir...
Celui qui est à la base de tout.
Oui, qui est de savoir comment l'univers a pu conduire à un organisme qui a pu réfléchir sur l'univers lui-même.
C'est une lourde tâche.
Nous sommes comme... Oui, mais nous sommes capable d'essayer de nous imaginer comment ça a pu se faire dès le début, comment est-ce possible, comment la matière peut-elle s'auto-organiser, c'est là j'ai dit le terme qui nous intéresse maintenant, l'auto-organisation.
L'auto-organisation,
comment
self-organization processes.
C'est ça, mm-hmm. Comment est-ce que la matière, par des phénomènes qui proviennent d'elle-même, et par des propriétés qui sont des propriétés de la matière, arrive progressivement à s'organiser.
Une matière intelligente en quelque sorte.
Ça dépend de ce qu'on appelle intelligent. Intelligente, oui, parce qu'elle nous a donné. Elle a donné l'organisme humain. Et puis, on n'est pas les seuls. Je suis assez convaincu qu'il y a d'autres planètes quelque part dans l'univers. Il y a d'autres gens qui sont en train de réfléchir à un tas de trucs. Peut-être parler, non pas de Beethoven, mais d'un autre gars qui avait fait. Hein, ou d'une dame qui avait fait des. Hein. Si des dames existent, des gars existent là-bas, j'en sais rien.
D'accord, vous êtes partisan de ces personnes qui pensent qu'il y a une,
oh
une
ben,
autre forme de vie.
Non, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas.
Mm-hmm. Oui,
je dirais plutôt l'inverse. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'il y en a nécessairement, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Il n'y a pas de raison qu'on soit unique.
Oui, vous inversez un petit peu
absolument.
Le raisonnement.
Absolument, je crois que c'est une arrogance totale de croire que nous sommes uniques. Et surtout, c'est une arrogance aussi de croire que nous sommes à la fin de l'évolution. Nous, les humains, allons changer.
Mais changer comment?
Bon, changer, je ne sais pas, peut-être nous-mêmes nous le ferons. Moi, j'aimerais bien avoir une main de plus, par exemple.
Oui,
je rigole,
évoluer,
là,
vous voulez dire, oui, bien sûr.
Oui,
voilà.
D'accord, non, mais nous allons changer. Nous sommes un petit point, là, nous sommes rien dans l'histoire de l'univers.
Donc, c'est ce sur quoi vous travaillez actuellement?
Oui, mais bon, d'accord, c'est les grandes perspectives. Là, la philosophie reprend ses droits, si je puis dire.
Voilà,
et, bon,
c'est le
chercheur, etc.
philosophe qui parle.
Mais après, bon, bon, on revient, c'est comme quand vous faites, si je veux dire, de la cuisine 3 étoiles, mais à la fin, au début, il faut quand même avoir les casseroles et les nettoyer après. Hein.
Oui, effectivement.
Donc, c'est la même chose en chimie. Vous pouvez avoir des grandes idées, vous pouvez avoir, vous placer dans un contexte et dans des perspectives, appelons-les grandioses, mais le travail de tous les jours est beaucoup de sueur. De transpiration.
De transpiration.
Voilà.
Eh bien, merci Jean-Marie-Hélène. Je crois que là, vous repartez cette fois-ci au Collège de France, puisque je le rappelle, vous êtes également professeur au Collège de France.
Je vais passer à mon bureau là-bas.
Vous allez passer à votre bureau.
Et ensuite,
vous repartez à Strasbourg, là où vous avez votre laboratoire.
Oui, dans un nouvel institut qu'on a monté depuis 2 ans maintenant et où nous essayons d'attirer, pas avec succès pour l'instant, des personnes dans des domaines très différents et qui sont toutes, je crois, de très 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 bon niveau international.
Eh bien, merci Jean-Marie-Hélène de nous avoir accordé cette émission, d'être venu nous rendre visite.
C'est avec plaisir.
Et puis, je vous propose qu'on se quitte avec la musique de Don Juan, enfin, musique de Mozart,
d'accord.
Don Juan. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Ahimè, o soi, che in cielo è questo mai?